Donc, nous sommes le jeudi 19 décembre 2019, cours de Rav Bereshi sur Hanouka.
Alors, le shiur va être dédié les refouas shelema de Malka Batsara, refouas shelema betor shachol Israël, et l'élu nishmat Yafa Batchana, Yaakov Raphaël ben Shmuel et Sol Batsete.
Ben, shalom ben Shlomo.
Refouas shelema le shalom ben Shlomo Atal. C'est bon. Donc, Bezrat Hashem, nous allons essayer de développer un petit peu ce soir un sujet de Hanouka, un sujet particulièrement important dans Hanouka, c'est d'expliquer Yavan, d'expliquer qu'est-ce que c'est Yavan, les Grecs, la Tarbout Yavan, la culture grecque, la Chochmat Yavan. Et comme nous allons le voir, nous avons beaucoup de Ma'amaré Chazal, beaucoup d'enseignements qui, d'un premier abord, n'ont pas vraiment de lien l'un avec l'autre. Pardon. Mais lorsqu'on approfondit un peu plus, moi, c'est presque comme un puzzle de Ma'amaré Chazal, Yavan et toute cette période. Et nous allons donc essayer d'approfondir, d'éclaircir ce sujet-là. Donc bien sûr, Hanouka, nous allumons les veilleuses de Hanouka, les bougies de Hanouka, puisqu'il y a eu le Nes, le fameux miracle dans le Beth Amikdash, où les Yevanim avaient rendu impures toutes les fioles d'huile, et on avait réussi à trouver une petite fiole, et grâce à cette huile-là, on avait pu allumer la menorah dans le Beth Amikdash. Et le miracle a été que bien que de cette fiole, on ne pouvait allumer qu'un seul jour, on a pu allumer 8 jours. Donc les Chachamim ont par la suite instauré une fête, Hanouka, où on doit allumer des veilleuses à notre tour aussi, 8 jours. Les Pirsumei Nissa. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que les Yevanim ont été pour rendre impures toutes les fioles d'huile et on a trouvé une petite fiole? C'était juste ça qui les dérangeait aux Yevanim, aux Grecs, de rentrer dans le Beth Amikdash, d'aller chercher toutes les fioles d'huile et avec une épée qui était impure, ça allait percer tout ce qu'ils trouvaient, c'est, comme on dit, Dafka. Ils vont aller chercher où est-ce qu'il y a une petite fiole d'huile. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Alors, comme introduction, nous avons un sefer qui s'appelle Seder Olam. Seder Olam, c'est Rabbi Yosef ben Khalafta qui a écrit ce sefer-là et qui nous rapporte à peu près Seder, l'ordre du monde. Il commence par Adam Arishon. Il situe un petit peu dans les années, dans les époques, tout ce qui s'était passé avec le Ham Israël. Les grandes figures du Ham Israël, un peu comme le Sefer Adorot par la suite, qui a repris à chaque génération exactement et à chaque événement quand est-ce que telle ou telle chose s'était passée. Dans le Sefer Seder Olam, donc Rabbi Yosef ben Khalafta, qui était un Rishon, nous dit que à cause de Yavan, si on peut dire, la névoie, la prophétie dans le peuple d'Israël s'est arrêtée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est marqué dans Seder Olam? Que lorsque Alexandre le Grand, Alexandre de Macédoine, a pris le pouvoir, c'est à ce moment-là que la névoie, la prophétie s'est arrêtée dans Am Israël. Est-ce que c'est juste une date chronologique? Donc à ce moment-là, Alexandre, il n'y a plus de névoie dans Am Israël, ou peut-être que plus, le Seder Olam voudrait nous dire que il y a un lien entre Alexandre le Grand, entre la Tarbout Yavan et la névoie, la prophétie dans le Am Israël. Alors pour cela, nous allons développer. Donc lorsque Alexandre est devenu roi, nous dit Sénat, qui lui a été le premier et à la tête du règne de Yavan, puisque le règne de Yavan arrive juste après le règne de Madaï. Nous avons eu d'abord le premier reine qui était celui de Babel, 70 ans. Ensuite, nous avons eu Madaï et les Perses qui sont 52 ans. Et ensuite, il y a la Malchut de Yavan qui était à peu près 100 ans. Et ensuite est arrivée la Malchut de Edom. Ce sont les quatre exils que nous connaissons qui sont rapportés donc, dans les Psukim de Daniel, dont il y a des allusions aussi dans Brit Ben Abetarim. Et comme il est rapporté aussi dans le Midrash Tanchuma, justement sur la Parashat Vayetse, lorsque Yaakov Avinu a rêvé, il y avait une échelle et Malachim Olim Veyordim Bo. Il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Le Midrash Tanchuma dit qu'il est apparu à Yaakov Avinu les anges tout d'abord de Babel. Et les anges de Babel ont monté 70 marches et sont redescendus. Ensuite, il a vu les anges de Madaï, c'est marqué dans le Midrash Tanchuma, qui sont montés 52 marches et qui sont redescendus. Et ensuite, il a vu les anges de Yavan, qui sont montés 100 marches et qui sont descendus. Et ensuite, il a vu les anges de Édom, qui montaient, qui montaient, qui montaient, qui ne s'arrêtaient pas et qui ne redescendaient pas. Et là, Yaakov Avinu, où il a eu très peur. Il a dit quoi ? Ça ne va pas s'arrêter un jour ? Ça va continuer, Malchut Edom, jusqu'à quand? Et effectivement, Malchut Edom, nous l'avons jusqu'à aujourd'hui encore. Mais les trois premières Malchuyot, trois premières règles qu'il y avait pardon, dans le monde, se sont terminées après ces quelques années. Donc la Malchut Yavan a commencé par Alexandre le Grand. Et à cette époque-là, au même moment, est décédé Malachi. Malachi, c'est un des derniers prophètes, le dernier prophète, qui est décédé juste au moment où Alexandre le Grand a pris le pouvoir. Dans ce Sefer Seder Olam, c'est marqué « Atkan ayu anevim itnabnim beruach hakodesh » jusqu'à ce jour-là, les prophètes avaient une prophétie « beruach hakodesh » avec l'Esprit Saint. « Mikan va'elach » à partir de cette période « at oznecha ushma divrei chachamim » Tends tes oreilles et va écouter les paroles des Chachamim. C'est-à-dire que cette Braïta vient nous dire qu'il y a une époque qui se termine, qui évolue. C'est l'époque des prophètes. Et juste après va commencer une nouvelle époque qui est d'Ivrei Chachamim. Par la suite, nous allons revenir, nous allons expliquer qu'est-ce que cela signifie. Mais comme nous allons le voir, donc il y avait d'abord Moshe Kibel Torah Misinai. Il l'a transmise à Yehoshua. Yehoshua aux Ekenim, les Ekenim aux Neviim, et les Neviim aux Anshe Knesset Agdola. Et Em Amrou Shlosha Dvarim, ils ont dit trois choses, c'est la première Mishnah dans Avot. Donc ce sont deux périodes, et nous allons voir qu'il y a une différence fondamentale entre la première période, Moshe, Yehoshua, Zekenim, Neviim, et la deuxième période, qui est la période que dans laquelle nous continuons jusqu'à aujourd'hui, qui est d'Ivrei Chachamim. C'est-à-dire que c'est la Torah orale à travers les Chachamim, mais ce n'est plus le moment, l'époque où Akadosh Baruch Hu parlait directement dans le monde. Comme c'est marqué dans la Gemara de Masechet Gittin, Daf Nunvav, pardon, Michamocha Ba'ili Mashem, la drasha est Michamocha Be'elemim Hashem, c'est-à-dire dans ceux qui sont muets, comme ceux qui sont muets. C'est-à-dire qu'il y a une période où Akadosh Baruch Hu ne parle plus dans le monde. Il ne parle plus avec le monde. Alexandre le roi, Alexandre le grand, Alexandre de Macédoine, a conquis le monde, a voulu apporter la chorma des Yvanim, des Grecs dans le monde, mais elle a été très courte, la période de Alexandre le Roi, puisque d'après nos sources, il est décédé à l'âge de 33 ou 34 ans. C'est-à-dire qu'il a eu à peine le temps de mettre en place son règne, que déjà il est mort. Il y a un passouk dans Daniel qui dit que « Omdo tishaber malchuto » que dès qu'il va être assis, sa malchut va être brisée. Alors la malchut Yavan, qui est-ce qui a continué, qui a apporté l'idée des Yévanim, c'est Edom. C'est Edom qui véhicule l'idée des Yévanim jusqu'à aujourd'hui encore. Comme c'est marqué dans la fameuse Gemara, dans le Midrash Echa, qui dit, si tu dis Chochma Bagoim, Ta'amin, est-ce qu'il y a de la Chochma chez les peuples? Oui, il y a de la Chochma. Torah Ba'amim, est-ce qu'il y a Torah Bagoim? Lo Ta'amin, il n'y a pas de Torah Ba'amim. Quelle est la différence? Torah, Chochma, qu'est-ce que les Chachamim voulaient dire? Juste que les Goïms n'ont pas de Torah? Bon, on aurait pu penser que les Goïms, ils avaient une Torah. On verra par la suite, on expliquera qu'est-ce que les Chachamim voulaient nous dire dans cette différence fondamentale entre la Chochma, les Goïms, et la Torah. Et comme nous savons, le Maharal lui-même explique que Edom, sa force est dans ses mains. Ayadaim et de Esav, c'est ce qu'il a reçu de Esav. Edom, c'est pas la Chochma. C'est pas la sagesse, Edom. Edom, c'est les mains. C'est Megir. C'est Yadaim et Deesav. Yavan, c'était la Chochma. C'était aussi la beauté. La beauté de la Chochma, la beauté de l'homme, la beauté de la création. Vous cherchez le Yofi, puisque Yavan est descendant de Yefet. Yefet, comme c'est marqué dans le Pasuk, Yavtelokim le Yefet. C'est-à-dire que HaKadosh Baruch Hu avait amené Yifuto shel Yefet, la beauté de Yefet dans les tentes de Shem d'Israël, puisque, comme vous savez, c'est une Gemara dans Megillah, que la seule langue avec laquelle on avait eu le droit d'écrire la Torah, c'était en grec. Parce que c'est la plus belle langue, la plus belle écriture, on peut dire, qu'il y avait à l'époque. Ça, c'est Yevanim, Machochma, la beauté. Au moment de Brit Ben Abetarim, donc de l'alliance entre les morceaux, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, pardon, à Avraham Avinu, que Khali Egla Meshuleshet, tu vas me prendre une petite génisse, et ça c'est une allusion du Midrash à Bavel. Ve'ez Meshulash, c'est Madai. Aïl Meshulash, c'est Yavan. Ve'tor ve'gozal, et un oiseau, Tor, ve'gozal, Tor, dit le Midrash, c'est Edom. Et pourquoi ve'gozal? Parce que Edom, c'est un voleur, Gazlan. Dire Edom, c'est emparer de quelque chose qui ne lui appartient pas. La Chochma n'appartient pas à Edom. Edom, il a Yadaim et Deesav. La Chochma, elle était au Yevanim. Mais Edom s'est emparé de la Chochma des Yevanim et a lui-même instauré dans le monde cette Chochma. Et comme nous allons le voir, existe encore dans le monde, c'est, on peut dire, toutes les chochmot du monde. Le tor, pardon, le pigeon est un voleur, comme on le sait. C'est une créature qui est toute faible, mais qui vole. Puisque même dans les korbanot, bien que généralement les entrailles de tous les korbanot, de tous les sacrifices, on doit les brûler sur l'autel au Beth Amikdash, pour le gésier de l'oiseau, il est jeté. Pourquoi il est jeté? Parce que lui, il se nourrit, il a gazelle, il vole, il prend ici et là. Donc on ne peut pas prendre son gésier, ses entrailles et les brûler sur le misbéar, c'est jeté. La Gemara nous rapporte des choses qui ont été dites à propos d'Alexandre le Grand. C'est-à-dire, on voit que les Chachamim l'ont quand même considéré comme étant un grand homme. Non pas un grand homme dans le sens que c'était un grand sadique, mais c'est un grand homme, c'est-à-dire un homme qui avait non seulement une grande chorma, une grande puissance, mais qui a été très loin. On a une Gemara dans Masechet Tamid qui dit que Alexandre le Grand a suivi une source et il est arrivé jusqu'à la porte du Gan Eden. Il y a, pour commencer, le Gan Eden à Tarton, un endroit, un Gan Eden du bas. Où est-ce que ça se trouve exactement? Ça, c'est quelque chose qui nous est caché aujourd'hui. Mais il a suivi une source, un endroit, c'est pas vraiment précisé où exactement, il est arrivé à la porte du Gan Eden. Lorsqu'il arrive à la porte du Gan Eden, qu'est-ce qu'il fait? La Gemara nous raconte qu'il tape à la porte avec force et qu'il dit « Je suis Alexandre, ouvrez-moi ». On lui a répondu « Zé Achar Lachem Tzadikim Yavouvo ». Il n'y a que les tzadikim qui pénètrent ici. Il leur a dit, mais moi je suis roi. Je suis un homme important. Donnez-moi quelque chose. Et vous connaissez certainement cette Gemara qu'on lui a jeté un crâne. Un crâne. Il a reçu un crâne et il a mis ce crâne-là sur une balance. Et d'un côté, il a mis tout ce qu'il avait comme argent, comme pierre, comme c'est. Et toujours, le crâne était toujours plus lourd que tout ce qu'il pouvait mettre de l'autre côté. Il a été voir les Chachamim, il leur a demandé qu'est-ce que c'est que ça, quelle est la signification de ce crâne. Il a dit, ce crâne, les Chachamim lui ont dit, c'est un homme qui a vécu dans ce monde et qui veut beaucoup, qui veut, donc il n'est jamais rassasié, donc il est toujours plus lourd que tout ce que tu pourras apporter. Mais si tu mets un peu de terre sur cette tête, sur ce crâne, eh bien, à ce moment-là, tu verras que la balance va tout de suite basculer de l'autre côté. C'est ce qu'il a fait. Et immédiatement, la balance, avec un petit peu de terre, elle a basculé du côté du crâne. On a aussi quelque chose qui est jusqu'à encore aujourd'hui qu'on garde à Alexandre. Aussi étonnant que ce soit. C'est un calcul, un compte d'années. Lorsqu'on compte aujourd'hui une ktouba, un mariage, on va écrire aujourd'hui tel et tel jour du mois, de telle année, depuis la création du monde. C'est comme ça qu'on écrit dans la ktouba. À l'époque, il y avait un autre calcul qui était à partir du règne de Alexandre. C'est ce qu'on appelait le règne des shtarot. C'est quoi les shtarot ? Dire de tous les actes, tout ce qui était marqué, signé, tout acte de prêt, de vente, de notaire, il y avait toujours une date par rapport au roi Alexandre. Le Rambam lui-même, lorsque dans son Sefer Yad HaChazaka donne une date de son époque, Rambam parle de l'année de la Shemitah. Il dit donc cette année, qui est-elle l'année depuis la destruction du Beth Amikdash, depuis la création de la destruction du Beth Amikdash et le minyan des Shtarot. C'était l'année. On voit aussi dans les Géonim, pour remonter, c'est-à-dire Rabbi Nissim Gaon, il a eu une introduction à la Gemara. Au début de cette introduction, il dit lorsque Rav est arrivé en Babel, c'était à tant d'années depuis la destruction du Beth Amikdash et tant d'années les Shtarot. C'est quoi les Shtarot? C'est-à-dire ce compte d'après d'Alexandre. Pourquoi on comptait? Le Gaon de Vilna dit sur le Seder Olam, il a une petite note, et il dit le Gaon de Vilna, parce que Alexandre le Grand a demandé qu'on rentre une statue peut-être de lui-même, Tselem Baéchal, dans le Héral, dans le Beth Amikdash. Et on a essayé de parlementer, de discuter avec lui. Et on a obtenu que si dans tout notre shtarot, dans tout ce qu'on écrivait, on lui donnait ce kavod à partir de telle et telle année d'Alexandre, eh bien ça lui suffisait, il n'avait plus besoin de mettre son tselem, son image dans le Héral. Et il a accepté, c'est pour cela que pendant des années et des années, c'est ainsi que Am Israël se comptait. Alors, bien sûr, il faudrait approfondir quel rapport, pourquoi il s'est contenté de cela. Et puis pourquoi, une fois qu'on a été, entre guillemets, aussi débarrassé d'Alexandre Grand, pourquoi on a continué ce calcul l'Ishtarot à partir de son époque. Ça, c'est quelque chose qu'on doit aussi approfondir. En tout cas, ce que les Chachamim nous ont appris à travers la Braïta et à travers le Seder Olam qui nous dit que lorsque Alexandre le Grand est monté au pouvoir, c'est à partir de ce moment-là que Malachi est décédé, et Malachi qui était le dernier des prophètes, cela veut dire que lorsque la Chochma des Yévanim est arrivée dans le monde, la Névoa a disparu de ce monde, et comme nous allons le voir, c'est parce que la Névoa et Yavan ne peuvent pas être ensemble, sont contradictoires. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait donc de si étranger à la Névoa pour Yavan? Donc dans cette fameuse Mishnah que je vous ai rapportée, dès que Moshe a reçu la Torah, il a donné à Yoshua aux Zekenim, Zekenim aux Nevim, les Nevim aux Anshe Knesset Agdola, et on a Shimon HaTzadik qui a été le dernier des Anshe Knesset Agdola, et Shimon HaTzadik qui a dit « Hu haya Omer », lui, il avait l'habitude de dire telle ou telle chose. Vous remarquerez que jusqu'à l'époque des Anshe Knesset Agdola, il n'y a aucun enseignement de Torah qui est rapporté au nom de tel ou tel rave, au nom de telle ou telle personne. Est-ce que vous avez entendu un jour, on dise, voilà, alors, Yoshua a dit tel enseignement, le prophète un tel a dit tel halakha? Non. Mais après cette période-là, on a entendu Rabbi Akiva a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, on rapporte des enseignements au nom des Chachamim. Dire jusqu'à cette époque-là, les enseignements n'étaient pas au nom des Chachamim. Un peu comme si c'est toujours Akadosh Baruch Hu qui parle dans ce monde. On nous dit aussi que dans la Gemara, Anach Laem Le Israël, Imena Nevim Bne Nevimen. Vous connaissez peut-être cette histoire où la Gemara nous rapporte dans Maseret Psachim, lorsque Hillel est arrivé à Yerushalayim, Hillel se trouvait en Bavel, et il est arrivé à Yerushalayim. Il y a eu une question concernant un Korban Pesach qui devait être sacrifié le Shabbat, c'est-à-dire que Pesach tombait Motsei Shabbat. Il fallait sacrifier le Korban Pesach pendant Shabbat. Il y avait toute une discussion comment faire pour porter aussi le couteau, le Korban, est-ce que c'est Doré Shabbat ou pas. Et personne n'avait de réponse. Et à un moment, la Gemara, donc c'est là que Hillel a donné son explication, et ensuite on a rendu Hillel le Nassi, parce qu'on a vu que lui, il était plus grand que tous, puisqu'il avait une halakha que personne ne connaissait. Mais dans la Gemara, il est rapporté aussi qu'on a dit, bon, puisqu'on ne sait pas, Anach Laem Le Israël, laisse faire Am Israël, tu verras demain que les Bnei Israël, même s'ils ne sont pas prophètes, ce sont des enfants de prophètes. Et donc, comme la Gemara raconte, ils avaient mis le couteau un peu dans la laine du mouton, et c'est ainsi qu'ils avaient amené le couteau. Les Bnei Israël sont appelés donc Bnei Nevi'im. Qu'est-ce que ça veut dire Bnei Nevi'im? À comprendre, Bnei Nevi'im, c'est-à-dire les enfants des Nevi'im, c'est juste une généalogie, une famille, on est des enfants de Nevi'im, des petits-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants de Nevi'im. Non, ça veut dire que chez les Bnei Israël, Bnei Nevi'im, il y a la névoie, il y a la prophétie chez les Bnei Israël. Le Goy n'a pas de névoie. Pour les Yévanim, celui qui vient parler au nom de Dieu, qui vient dire « Dieu m'est apparu, Dieu m'a dit », pour eux, c'est un mensonge. L'homme, pour le Yavan, est né dans ce monde, il vit dans ce monde, et ses repères, ce n'est que ce monde, ce qu'il voit. Ce qu'il voit, le Yavan, c'est ça l'idée des Yévanim, c'est-à-dire ce que je vois, c'est ce qui existe. Ce que je ne vois pas n'est pas là. On a un Ramban dans Parashat Acharemot, et je vais vous lire les mots du Ramban, l'Achmanide, qui, lorsqu'il donne une explication sur un pasouk, il dit, bon, ça c'est un secret que je ne veux pas divulguer. Et il dit qu'il y a inut srichim lachsom pi amitrakemim bateva. On aurait dû fermer la bouche de ceux qui se considèrent chacham dans la nature, anim shachim acharei yevani, qui vont à la suite de ce yevani, de ce grec, asher rich kol davar zulato amurgash lo, qui lui a exclu toute chose qu'il ne pouvait pas palper, qu'il ne pouvait pas sentir, qu'il ne pouvait pas percevoir. Veleagis dato, et il pensait, ce yevani, dit le Ramban, l'archov huv et talmida vareshaim, de penser lui et tous ses élèves, qui kolinyan sheloisig elam, iluhum besvarato enenuemet, que toute chose que lui n'a pas pu comprendre, c'est que c'est pas vrai. C'est-à-dire toute chose qu'on ne peut pas percevoir, toute chose qu'on ne peut pas voir, dans la chorma yevanit, la chorma de Yavan, ça n'existe pas. Le Yavan était très chacham, mais il était chacham dans le monde que, dans lequel il vit. Pas au-delà. De savoir, comme c'est marqué dans Avot, mais Ain Bata, les Anataoler, ça n'intéresse pas le Yévani. Là-bas, il n'y était pas, là-bas, il n'y sera pas, il est dans ce monde-ci. La Chochma, qui était quand même une Chochma du Yavan, c'est de bien expliquer, traduire ce qu'ils voient. Ça, c'est vrai qu'ils ont pu déterminer ce qu'ils ont vu tel qu'ils l'ont vu. Mais ça, ce n'est pas la vision des Béné Israël, ce n'est pas la vision de la Torah. Nous, on est Béné Nevi'im, c'est-à-dire qu'on a une autre vue complète. Il y a aussi un autre monde, il y a aussi le monde d'Akadosh Baruch qui s'adresse à nous, qui nous parle dans ce monde-ci. De la même manière que quelqu'un qui est appelé, qui vit dans un village, on appelle un Ben Kfar, dans le Lashon des Chachamim. Quelqu'un qui s'appelle un Ben Torah, Ben Tarbout. Ça veut dire quoi? C'est pas qu'il est fils du Kfar, du village. Un enfant du village, c'est-à-dire c'est un villageois. Bene Nevim, c'est-à-dire que nous sommes tous porteurs de cette idée qu'il existe la névoie. C'est-à-dire que bien que généralement, pour les Yévanim, la névoie ne peut pas exister. C'est contraire à toute l'idée de Yévanim, parce que ce n'est pas quelque chose qu'il peut voir, pas quelque chose qu'il peut sentir, qu'on peut prouver. Donc le Yavan, lui, n'a pas la possibilité de percevoir la névoie. On va revenir encore par la suite à cette idée de Yavan exactement. Mais juste avant, pour approfondir ce que nous avons vu dans le Seder Olam, je vais vous apporter un enseignement, mais j'ai tiré beaucoup de choses des enseignements de Rav Moshe Shapira, qui disait qu'il y a, en hébreu, chaque chose est appelée davar. En hébreu, davar, dvarim, on dit des choses, dvarim, arbe dvarim, beaucoup de choses. On parle dans le Lashon de la Mishnah, en lecha davar she'en lo makom, il n'y a pas une chose qui n'a pas sa place. Pourquoi la chose est appelée davar? Alors il disait parce que le monde entier, c'est un dibour, c'est une parole. Le monde entier, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu nous parle dans ce monde à travers tout le monde qui nous entoure. Comme on dit, c'est aussi la parole « Udvara malkenu emet vekayam lad » Et aussi on dit « Udvarav chayim vekayamim venemanim » Tout le monde, c'est « Dvarav shel Akadosh Baruch Hu » C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu nous parle. Tout ce qu'il existe dans le monde, c'est une parole, c'est un message d'Akadosh Baruch Hu. Le Yavan, le grec, ne voit pas dans un objet la parole d'Akadosh Baruch Hu. Il regarde la couleur, il regarde la beauté, il regarde la forme, il regarde sa place, il regarde ce qu'il voit. Mais Israël ne regarde pas juste un objet, une couleur. Il regarde ce que l'objet dit, ce qu'il vient, quel est le message dans lequel il est porteur. Donc pour le Yavan, effectivement, il n'y a pas de possibilité de névoie. La névoie n'existe pas. Dès que les Yévanim sont rentrés dans le monde, la névoie, obligatoirement, il y avait une telle, si on peut dire, impureté, une telle touma dans le monde, que la névoie n'avait plus sa place dans le monde. Et à partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu ne parle plus au monde à travers les Nevi'im. C'est-à-dire, c'est une époque, si on s'imagine, une époque qui est, nous, c'est une déchirure avec Akadosh Baruch Hu. Puisque jusqu'à l'époque des Nevi'im, Akadosh Baruch Hu s'adressait à chacun d'entre nous à travers un prophète. La Gemara dans Maseret Megillah nous dit, vous savez combien il y a eu de prophètes dans le Ham Israël? Alors on pense, c'est vrai, les noms qu'on connaît, il y en a 48. La Gemara dit non, il y en avait des milliers, des dizaines de milliers de prophètes. Les prophètes que nous avons, ce sont ceux qui ont apporté une prophétie qui va servir jusqu'à la fin des temps. Mais une prophétie qui n'était que pour le moment, cette prophétie n'est pas rapportée dans le Tanakh. Parce qu'elle n'a pas d'importance pour les générations à venir, elle était pour le travail du moment. Et c'est ainsi qu'il est rapporté dans le Mefarshim que les Nevi'im avaient une mission particulière. C'est-à-dire qu'il y avait un Navi pour plusieurs personnes, et le Navi venait dire, voici, j'ai reçu une névoie, que c'est ce que tu dois faire, voici ton tikkun, voici ce que tu as une mitzvah que tu dois faire, voici là où tu dois t'appliquer, voici ce que tu dois travailler. Le Navi était là pour diriger l'homme dans sa Avodat Hashem et l'amener dans son tikkun, dans sa perfection du service divin. Une fois que nous avons perdu cette névoie, où Kakadosh Baruch Hu ne nous parle plus, là on va comme nous dit le Midrash donc de Seder Olam, At Oznecha Ushma Divrei Chachamim. Là, tu dois faire un effort. Ce n'est plus le Navi qui vient et qui te dit, tu sais, voici ce qu'on m'a dit pour toi, mais à ce moment-là, c'est toi qui dois aller chercher, c'est toi qui dois aller approfondir, c'est toi qui dois aller voir à travers les paroles des Chachamim. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut te dire ? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu continue à nous parler, mais d'une manière cachée, à travers la Torah, à travers les paroles des Chachamim. Jusqu'à l'époque des Anshe Knesset Agdola, les porteurs de la Torah, qui étaient Moshe, Yehoshua, les Ekenim, les Nevi'im, rapportaient la Torah orale telle qu'Akadosh Baruch Hu l'avait donnée au Mont Sinaï. Lorsque au Mont Sinaï, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah écrite et la Torah orale. Cette Torah orale, Akadosh Baruch Hu nous l'a donnée, nous l'a transmise. Et eux, les Nevi'im, ont été porteurs de ce message. Dieu a dit telle ou telle chose. Une fois que la névoie s'est terminée, donc les Chachamim, là, n'ont plus la même langue. Les Chachamim ne vont plus dire Dieu a dit, parce qu'ils n'ont pas reçu directement par prophétie Dieu a dit. Mais ils vont rapporter les enseignements de la Torah. C'est seulement une autre facette de la Torah orale. Et cette facette de la Torah orale, elle passe à travers tel ou tel sage qui a dit. C'est pour cela que Shimon, qui était le dernier, Knesset Agdola, et dans Knesset Agdola, on avait les derniers prophètes, qui étaient Malachi, Haggai, Zecharia. Shimon HaTzadik est le premier, d'une certaine manière, qui va commencer cette nouvelle facette de la Torah orale qui est Hu Haya Omer. Voici maintenant ce que lui disait. C'est-à-dire, voici l'enseignement qu'il avait apprendi, qu'il avait reçu et qu'il allait maintenant nous le faire passer. C'était ça le message. Nous allons voir par la suite. Il y a une autre Gemara qui est assez étonnante. Peut-être juste je vais vous lire cette Gemara, mais ensuite on essaiera de l'expliquer. Il y a une Gemara dans Masechet Yoma, Daf Samertet. La Gemara nous rapporte aussi une petite anecdote, une petite histoire, mais qui est assez étonnante lorsque nous allons voir les noms qui sont les deux figurants dans cette histoire-là. La Gemara nous rapporte Be'esrim v'chamisha be'tevet. Le 25 du mois de Tevet, Yom har gerizim hu, delo lemispad yom. C'est un jour où on n'a pas le droit de prononcer d'oraison funèbre. C'était la fameuse Megillat Ta'anit, où il y avait des jours où on n'avait pas le droit de jeûner, des jours où on n'avait pas le droit de prononcer une oraison funèbre, parce qu'il s'était passé quelque chose d'important pour les béné Israël. Ce jour-là, Bikshu Kutim et Bet Elokenum Alexandrus Mugdon. Les Kutim ont demandé à Alexandre de Macédoine, Alexandre le Grand, de leur donner le Beth Amikdash. C'est-à-dire les Koutim, c'était donc ce peuple de Kouta qui s'était converti par la peur des lions, qui eux ne croyaient pas en la Torah orale. Et ces Koutim-là ont demandé à Alexandre Smugdon, donne-nous le Beth Amikdash, les Harivo, on veut le détruire. Venatnu Laem. Et il a dit, c'est bon, je vous donne. Allez-y, vous pouvez détruire le Beth Amikdash. Baou Veodiou, ils sont venus le dire à qui ? Et Shimon HaTzadik. Ils sont venus dire à Shimon HaTzadik. Maasa, qu'est-ce qu'il a fait ? La vache Bigde Keuna, il s'est habillé des habits de Keuna du Kohen Gadol. Venitatev, Bigde Keuna, enveloppé des habits de Bigde Keuna. Umiikire Israelimo, il a pris les hommes importants du peuple d'Israël. Vavukot Shelor Beyadehem, et avec des torches de feu dans leurs mains. Vechol Alaila, Halal Chulchim Mitzadze, Valulchim Mitzadze. Toute la nuit, lui, il se dirige vers l'armée ennemie et les ennemis, à leur tête, Alexandre le Grand, se dirigent vers Yerushalayim pour détruire le Beth Amikdash. Atshala Amudashachar, jusqu'au lever du matin. Kevan Sheala Amudashachar, lorsque Amudashachar est arrivé, le lever du matin, Amar Laem, Mialalu, Alexandre s'adresse au Koutim, dit c'est qui ces gens-là ? Amroulo Yehudim Shemardoubecha. Ce sont des juifs qui se sont rebellés contre toi. Donc l'allusion est claire. Il faut que tu les tues tout de suite. Kevan Shegi à l'Antifatras. Donc il continue sa marche. Il arrive à Antifatras. Zacha Chama, là le soleil brille, ou Pagouz est basé. Et là, ils se retrouvent les uns en face des autres. Écoutez bien, la Gemara nous dit. Kevan Sheral et Shimon Hatzadik, lorsque Alexandre le Grand voit Shimon Hatzadik, Yarad Mimarkevato, il descend de son char, Vishtachave Lefanav, il se prosterne devant lui. Amroulo, Melech Gadol Kamotra, Ishtachave Le Yudize, un grand roi comme toi, il a conquis quasiment tout le monde, était sous sa main, le monde entier. Tu te prosternes à ce juif. Remarque, c'est Alexandre le Grand, Malchut Yavan, avec Shimon Hatzadik, qui est le premier de cette nouvelle génération, juste après que la névoie, la prophétie a cessé. Amar Lehem, qu'est-ce qu'il leur répond ? Dmut yokno shel ze menatzachat lefanai bebet milchamati. C'est-à-dire, lorsque je pars en guerre, c'est cette figure que j'ai devant moi. Et tout d'un coup, Alexandre dit, je pars en guerre, et quand je pars en guerre, il y a une figure devant moi, et c'est la figure de cet homme-là. Amar Lahem, il leur a dit, Shimon Hatzadik, Lama Batem. Donc c'est Alexandre qui demande au Chachamim, pourquoi vous êtes venus ? Il leur a dit, Amo Efchar, Bait Shemitpalim Bo Alecha, Aval Malchutecha, Shelot Echarev, Itoucha Ovde Kochavim Lachivo. Il dit, comment est-ce possible, une maison dans laquelle on prie pour toi, pour ton règne, que ça ne soit pas détruit. Les goïms t'ont poussé, t'ont trompé pour le détruire. Il a dit, qui c'est ? Il a dit, c'est les koutims. Et à ce moment-là, les sandes a dit, bon, alors, je vous donne à vous les koutims. Et on voit que les ministres se sont débarrassés des koutims jusqu'à... Donc, ils les ont fait traîner avec des... attachés aux queues des chevaux. Donc il y a une soeur, ils ont mal terminé ces coutumes, comme marqué, ils sont arrivés jusqu'à Arguerizim. Et Arguerizim, c'est l'endroit où habitaient les coutumes, tout a été labouré, tout a été détruit, un peu comme ce qu'eux avaient voulu faire au Beth Amikdash. Donc on voit ici quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'on retrouve Alexandre avec Shimon Hatzadik, et Shimon Hatzadik a l'air d'être aussi là et d'accompagner Alexandre le Grand dans sa démarche. Alors, là, il y a une explication un peu profonde. Je ne sais pas si vraiment comprendre qu'est-ce que le Rav Moshe Shapira voulait dire, mais lui, il expliquait de cette manière. Il disait que, étant donné que d'une certaine manière, Akadosh Baruch Hu voulait qu'il y ait cette nouvelle époque, la Torah orale, cette deuxième facette de la Torah orale, donc il fallait d'une certaine manière que se termine l'époque des prophètes. Donc même si au départ, les prophètes ne sont plus là parce qu'il y a la Malchut Yavan, mais dans le plan divin, Akadosh Baruch Hu voulait qu'il y ait aussi cette facette, puisque bien sûr, on a toujours le libre arbitre, mais ce que Akadosh Baruch Hu a fait, c'est en fin de compte ce qu'il voulait. Et donc, son plan divin était qu'il y ait cette deuxième facette de la Torah orale. Et donc, peut-être que Shimon Hatzadik, qui a été le porteur de cette Torah orale, accompagnait dans sa conquête Alexandre le Grand pour qu'il puisse donc effectivement répandre cette Tarbout Yavan, cette Rochmat Yavan dans le monde, et obligatoirement, on passe donc à cette deuxième facette de la Torah orale. Donc, c'est un peu à méditer, à réfléchir, c'est une explication qui est donnée. Je reviens avec la Rochmat de Tarbout Yavan que nous allons essayer d'expliquer encore en approfondissant. Le Rambam, au début de l'Ilchot Hanouka, nous dit Bebait Sheni, au deuxième Beth Amikdash, chez Malchou Yavan, Gazrou Gzerot al Israël. Ils ont fait des décrets sur les Bnei Israël, ou Batlou Datam. Et ils ont annulé Batlou Datam, c'est-à-dire leur loi, leur religion. Veloi Nichu Otam la Asok Batoura ou Bemitzvot. Et les Ivanim ne laissaient pas les Bnei Israël accomplir la Torah et les Mitzvot. Ensuite, ou pashtu yadam be mamonam be notem be nichnesu lechal, etc. Donc, ils ont même pillé et violé les Bnei Israël. Ils sont rentrés dans le Echal. Ils ont partsubo peratzot vetimu ataharot. Ils ont fait des peratzot. C'était quoi les peratzot? Fait qu'il y avait au Beth Amigdash plusieurs des méchitzot, c'est-à-dire des séparations. Il y avait des endroits, l'un est plus kadosh que l'autre. Il y a la porte du Harabait, et ensuite il y avait une autre place qui était le Soreg. Le Soreg, c'était un tout autour du Beth Amigdash, donc on est avant l'enceinte de la Hazara, un Soreg, où ce Soreg était composé de petits morceaux de bois qui étaient comme ça, mis en
croisillon.
En croisillon. Et les pardon, les Ivanim ont cassé ce Soreg-là et ont fait 13 brèches dans... Merci. 13 brèches dans le... dans ce Soreg. Pourquoi 13 brèches? Parce que à partir du Soreg, le Goy n'avait plus le droit de pénétrer, n'avait plus le droit de rentrer. Et donc, eux ont cassé cette méritza. Elle n'était pas très haute. Elle était à peine de quelques dizaines de centimètres. Et ils ont cassé à 13 endroits pour pouvoir montrer si... Merci. Nous pouvons passer, nous pouvons traverser même là où vous nous interdisez. Par la suite, les bénis d'Israël ont fermé ce qu'ils avaient cassé, mais les Chachamim ont instauré Shlosh Esrei Ishtachavayot, c'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un passait au Beth Amikdash à côté de cet endroit-là, un des 13 endroits, il devait se prosterner complètement, c'est-à-dire s'allonger complètement devant Akadosh Baruch Hu et remercier Hachem que voilà, on s'est débarrassé de ces Yevanim qui ont voulu faire cette pirsa. Et il y en avait 13 comme ça au Beth Amikdash, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un était censé aller au Beth Amikdash, il passait obligatoirement par ces endroits-là, et il y avait pendant donc des centaines d'années après, puisque c'était juste après que les Hashmonaïm ont vaincu, comme dit le Rambam, la Malchut est revenue près de 200 ans jusqu'à la destruction du deuxième Beth Amikdash. Donc au moins pendant 200 ans, on avait été massé des Yevanim, il y avait cette takana de se prosterner à cet endroit-là, remercier que je vous montrer, voici l'endroit où les Yevanim ont cassé, ont montré, ont voulu dire non, on peut continuer, on peut avancer, et on a réussi à les bloquer. Les Yevanim comme nous dit le Rambam, batlu datam. Qu'est-ce que ça veut dire batlu datam? D'un côté, c'était gazrou gzerot al Israël, batlu datam velo nichotam lasok batrua bemitzvot. Et d'avoir là une répétition dans le Rambam. Ils ont fait des décrets. Donc c'est quoi les décrets? Leur interdire d'accomplir des mitzvot. Batlu datam, ils ont annulé leur religion et ils ne les ont pas laissés étudier ni accomplir des mitzvot. Le Rambam a l'air là de se répéter. Qu'est-ce que le Rambam veut nous dire? C'est qu'il y a là, dans Batlu datam, quelque chose de particulier dans la Chochma de Yivanim. Lorsque les Chachamim nous disent Chochma bagoim ta'amin, mais Torah bagoim al ta'amin. Qu'est-ce que les Chachamim ont voulu nous dire? La Torah chez les goyim, ils n'en ont pas. Mais la Chochma chez les goyim, ils en ont. Non. C'est pour nous dire que les goyim n'ont pas de Torah. On sait Umishpatim bal yedaum. Les goyim n'ont pas la Torah. En réalité, ce que les Chachamim veulent nous dire ici, c'est que la Chochma de la Torah et la Chochma des goyim, la Chochma des Yevanim, est totalement différente. Le Yavan, sa Chochma, était contraire, si on peut dire, à l'idée de la Chochma de la Torah. La Chochma de la Torah, pourquoi on a une Torah? Pourquoi on étudie la Torah? C'est parce que cette Torah que nous avons, elle doit changer l'homme. Elle doit apporter quelque chose à l'homme, mais pas à l'aider à mieux vivre, mais à se changer lui-même. La Chochma des Yevanites, elle voulait aussi faire du bien à l'homme. Mais pour l'homme, mais pas changer l'homme. On connaît tous cette histoire qui est rapportée dans beaucoup de livres, où un jour on a trouvé Aristote qui était en train d'accomplir une action, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il faisait, mais qui n'était pas digne d'Aristote. Et donc ses élèves étaient à côté, lui ont dit, « Maître, un homme si grand que toi, c'est comme ça que tu te conduis ?» Il a dit, « Non, mais maintenant, quand je fais ça, je ne suis pas Aristote. » C'est-à-dire qu'il y a la Chochma, il y a l'homme. La Chochma va aider l'homme à mieux comprendre, à mieux vivre, à s'arranger dans ce monde. Mais pour les goyim, il n'y a pas d'intérêt à changer l'homme, à améliorer l'homme. Alors que l'idée de la Torah, c'est tout à fait le contraire. L'idée de la Torah, c'est que la Torah va changer l'homme. C'est ça le but de la Torah. De pas seulement, voir donc on va maîtriser la nature, on va se maîtriser soi-même. On remarquera aussi que les goyim ont utilisé d'une certaine manière leur chorma pour aussi faire les pires des choses qui ont pu exister dans l'humanité sont arrivées d'afka par la chorma des goyim. C'est-à-dire d'afka par les gens qui ont étudié, qui étaient dans les grandes, dans les universités, si on parle de ceux qui étaient juste avant la dernière guerre mondiale ou d'avant encore. C'est-à-dire chaque fois qu'il y avait chorma, 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 cette chorma a été utilisée même pour faire du mal au monde. C'est-à-dire, c'est vrai que c'était pour leurs intérêts personnels, mais d'une certaine manière, c'était faire du mal au monde. Les Chachamim nous disent « Tachlit chokhma, tshuva ou ma'asim tovim » C'est une Gemara dans Brachot. Le but de la chokhma, c'est tshuva ou ma'asim tovim, pour arriver à des bonnes actions. Nous avons une Gemara qui est dans Masechet Shabbat, qui est assez étonnante parce qu'on va retrouver dans cette Gemara-là encore une histoire avec, encore une fois, les Yevanim. La Gemara nous dit, c'est Rava, lorsqu'un homme quitte ce monde et qu'il arrive en haut, la première des questions, on lui dit, donc tu as consacré du temps à la Torah, est-ce que Pilpal Tabechokhma, Evanta Davar Mikol Davar, as-tu pu comparer quelque chose avec une autre? Et à la fin, on lui dit, bon, même si tu as étudié tout ça, est-ce que tu as la crainte du ciel? Et la Gemara nous dit, si tu as la crainte du ciel, alors ça va, tu as tout. Sinon, tu n'as rien. Et on a une expression dans la Gemara qui dit, puisque c'est marqué dans le Passouk, « Vayomer la Adam, en yirat Hashem hi chokhma ». C'est quoi « hen yirat Hashem hi chokhma »?« Hen », ça voudrait dire, oui, uniquement, la yirat Hashem, la crainte du ciel, c'est la chokhma. Pourquoi « hen », ça veut dire uniquement? Eh bien, écoutez ce que la Gemara nous dit. Parce que en grec, hen signifie un, unique. Sheken kurim le achat belashon yevanit hen. C'est-à-dire que les chachamim, ici, nous ont fait encore un remez. Que lorsqu'on vient nous dire que l'essentiel de la Torah, c'est pour arriver à la crainte du ciel, c'est pour se parfaire, et que il n'y a que, disent les chachamim le pasuk, yirat Hashem, qui est la chokhma. Là, on utilise « hen » en grec. « Hen », c'est la « chokhma ». Le Maharal Miprag nous dit « Pourquoi « hen » c'est un ?» Pourquoi c'est uniquement « c'est hen » C'est parce que dans toutes les lettres de l'alphabet, lorsque vous voulez arriver dans les premières lettres à 10, vous devez associer deux lettres, le « aleph » avec le « tet », le « bet » avec le « chet », le « gimel » avec le « zain ». La valeur numérique, vous obtenez à chaque fois 10. 1, 9, 2, 8, 7. Mais le « he » est au milieu. Il s'associe avec quoi? Avec un autre hé. Hé avec hé, ça fait 10. De même, dans les pour arriver à 100, quand vous arrivez, vous prenez Yud, avec Tzadik, avec 90. Le Raf, avec le P. Qui est... Et quelle est la lettre du milieu? C'est le Noun. Le Noun, c'est 50, qui va avec un autre Noun. Ça nous donne 50-50. Donc, dit le Maharal, les seules lettres dans l'alphabet qui sont... on peut dire yachid, unique, qui ne peuvent s'associer qu'avec eux-mêmes, c'est le he et le nun. Donc c'est d'une certaine manière aussi, il dit l'explication du pasuk, hen ham levada dishkom. C'est-à-dire le peuple d'Israël est un peuple qui vit tout seul. Hen, on retrouve ce mot de hen. Hen, c'est ces deux lettres-là qui ne sont qu'entre elles. Donc là, les chachamim nous disent, le lachon hen irat Hashem ichokhma, la crainte du ciel, c'est la seule chokhma. Est-ce que la crainte du ciel, c'est la chokhma? Il faut une chokhma pour la crainte du ciel. Je me rappellerai les paroles du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, dans son Sefer Mesilat Yesharim. Dans son introduction, il rapporte ici, il dit que l'importance d'étudier un peu de Moussav est une série comme le Mesilat Yesharim. Il dit, puisqu'on trouve tellement de temps pour étudier des tas de choses, Et ensuite, c'est marqué, il dit, Im tevakshena ki kesev ou ki matmonim, tarpesena astavin irat Hashem. C'est-à-dire, si tu vas chercher comme de l'argent et comme quelque chose de précieux, comme un trésor, alors tu comprendras irat Hashem. Il dit, pourquoi tu comprendras irat Hashem? Il dit, pas marqué, tu vis une philosophie, atruna, refoua, dini, malachot même. Ta vie irat Hashem. Donc, même pour moi, la irat Hashem, il faut la chercher, la comprendre. Et il rapporte un irat Hashem, ichochma, comme c'est marqué. C'est-à-dire que, il dit, vada et shen ikra chochma ma shen bo iyun. Il n'y a pas de chochma s'il n'y a pas d'approfondissement. Et il dit, effectivement, pour arriver à la vraie crainte d'Hashem, il nous faut bien l'approfondir, l'étudier, pour pouvoir non seulement comprendre qu'est-ce que cela signifie la irat Hashem, mais pouvoir aussi l'intégrer. Et comme il poursuit en disant, celui qui va un petit peu réfléchir verra que la chassidut et la irat Hashem, ce ne sont pas par des petites choses futiles, des actions, comme il dit par la suite, d'aller au mikvé, dans du mikvé glacé, de jeûner. Ce n'est pas ça la irat Hashem. Donc la irat Hashem demande une chokhma particulière. Et donc on retrouve dans ce lachon des chachamim que hen irat Hashem y chokhma. Et c'est justement ce que Yavan refusait. Puisque Yavan, c'était l'étude, la science pour l'étude, la chokhma pour la chokhma. Pas pour amener une meilleure conduite à l'homme, pour amener une irat Hashem. Et c'était ça que les Yavanim ont voulu lutter avec Am Israël. Dans les prières que nous disons dans le Alanissim, que nous disons à Hanouka, nous disons les Aviram Mechoker et Sonecha. Ils ont voulu les Aviram, donc faire transgresser, enlever les bénis d'Israël, Mechoker et Sonecha. Des Choker et Sonecha. C'est quoi Choker? Choker, c'est les Chokim. C'est quoi les Chokim? C'est-à-dire les lois qui sont sans raison. C'est-à-dire que les Yevanim, ce qui leur dérangeait dans le Ham Israël, c'était les lois qui ne sont pas compréhensibles à la grecque, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a des lois qu'on peut comprendre. Il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, ça peut se comprendre. Mais ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'était les choukim. La vache rousse, l'impureté, la touma, la tahara. Ça, c'est ce qui dérangeait les Yevanim. Donc les Yevanim, que Am Israël va être un peuple intelligent et va pouvoir faire un bet mishpat comme il faut et juger et bien gérer les problèmes des uns et des autres. Là, il n'y a pas de problème pour eux. Ce qui leur dérange, c'est lorsque Am Israël va avoir des choukim, des lois sans raison. Pourquoi? Parce que quoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, parce qu'il y a un Dieu, tout ça, ça ne rentre pas dans la chokhma yevanit. Je vais rajouter quelque chose plus encore. En vérité, lorsque nous accomplissons des mitzvot, il y a, comme c'est marqué dans le pasuk, les mishpatim, chukim ou mishpatim. Les chukim, ce sont les lois qui sont sans raison, qu'on ne comprend pas. Les mishpatim, ce sont les lois que, théoriquement, on comprend. Mais pourquoi on accomplit ces lois que l'on comprend? Parce qu'on les comprend ou parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a ordonné de les faire? Alors, vous connaissez certainement cette explication de Rabbi Chaim Ibriz, Rabbi Chaim Soloveitchik, qui disait que dans le Zohar s'est rapporté Istakel Boraita Ubara Alma. Akadosh Baruch Hu a regardé dans la Torah et il a créé le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a regardé dans la Torah et il a créé le monde. On pourrait penser que comme dans le monde tel qu'il a été créé par Dieu, il y a des parents qui mettent au monde des enfants, donc la Torah vient ensuite dire, tu sais quoi, mais tu dois respecter tes parents. Vient Rabbi Chaim Soloveitchik qui dit non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé un monde où il y a des parents qui vont mettre au monde des enfants. C'est parce que dans la Torah, c'est marqué que tu dois respecter tes parents, donc il faut qu'il y ait des parents et des enfants. Donc Kadosh Baruch Hu a créé le monde de cette manière. Le monde aujourd'hui, si on tue, si on vole, le monde il se détruit, il s'abîme, il se détériore. Parce que le monde a été créé de cette manière. Mais Dieu aurait pu créer un monde. Ou au contraire, de tuer, de voler. C'est comme ça que le monde... Tiens, il y a un monde comme ça, un monde parallèle. C'est le monde de la jungle. Où vous avez les animaux, où le plus fort gagne, et l'un mange l'autre, et l'un tue l'autre. Et ils vivent, et ils continuent de vivre, et ça ne dérange personne. Parce que c'est le monde de la jungle. Akadosh Baruch Hu aurait pu créer un monde où tuer ne détruit pas le monde, voler. Mais il faudra juste être le meilleur brigand, le meilleur voleur, le meilleur tueur et le plus fort pour gagner. puisque dans la Torah c'est marqué tu ne tueras pas, et dans la Torah c'est marqué tu ne voleras pas. Donc Akadosh Baruch Hu a créé un monde que si tu voles ou si tu tues, tu le détruis, ce monde-là. Et c'est pour cela que il y a un Rambam assez étonnant, parce qu'on l'avait une fois rapporté ici même. Il y a un Rambam qui nous dit à propos des sept mitzvot bené noir. Le Rambam nous dit que un goy qui accomplit les sept mitzvot bené noir est appelé chassid umot haolam. Le terme de chassid umot haolam rapporté dans la Torah est chassid umot haolam, le goy qui accomplit les sept mitzvot. Mais, précise le Rambam, le goy qui accomplira les sept mitzvot bené noir, qui est appelé chassid umot haolam et qui a droit au olam haba, c'est uniquement s'il accomplit ses mitzvot parce qu'elles sont marquées dans la Torah et parce que Dieu a ordonné à Moshe Rabbeinu que les goyim doivent accomplir ces sept mitzvot. Mais, poursuit le Rambam, si le goy accomplit les sept mitzvot parce qu'il les comprend, parce qu'il adhère à ces sept mitzvot, parce qu'il comprend qu'il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, eh bien, dit le Rambam, même si le goy accomplit ces sept mitzvot, il n'est pas chassid ou mot haolam, mais il n'a pas droit au olam haba. Et le Rambam poursuit et dit, il n'est même pas velom et chachmim, il ne fait même pas partie des chachamim de chez les goyim. Et tous les mefarshim se posent la question, qu'est-ce que le Rambam il a voulu dire par là, velom et chachmim? L'explication, une explication qui a été donnée, c'est d'après ce que nous dit Ephraim Soloveitchik, étant donné, c'est l'explication de Rabbi Yosef Zov Soloveitchik, qui disait que, puisque Akadosh Baruch Hu a créé un monde que si on tue et si on vole, le monde est détruit. Donc un goy qui comprend parce que c'est ce qu'il voit dans ce monde n'a en vérité aucun mérite, il n'est même pas chacham parce que c'est juste ce qu'il a vu. Parce que Akadosh Baruch Hu aurait pu créer, comme on l'a dit, un monde totalement différent. Donc pourquoi j'ai rapporté cela? Pour nous dire que, en vérité, même les mishpatim, les lois logiques que nous accomplissons, elles ne sont pas du tout logiques. Elles sont logiques parce que Dieu a créé un monde où ces lois-là vont rendre le monde logique de cette manière-là. Mais Dieu aurait pu créer un monde totalement différent. Donc pourquoi nous accomplissons en fait toutes les mitzvot, qu'elles soient mishpatim, qu'on les comprenne, ou qu'elles soient chukim, c'est parce que HaKadosh Baruch Hu nous l'a ordonné et qu'en vérité les mishpatim à leur base, avant la création du monde, étaient aussi des chukim. Pourquoi ne pas tuer? C'était aussi un chok. Parce que tant qu'on n'a pas de monde, on ne comprend pas pourquoi tuer et détruire le monde. Et ça, c'est ce qui dérangeait aussi les Ivanim. Donc les Ivanim, ils ont dit, non, c'est pas possible. Tu ne peux pas dire qu'il y a, donc une mort, s'il y a quelqu'un qui a créé ce monde. Le monde, il est tel que nous le voyons maintenant, depuis sa création jusqu'à maintenant. Et on ne peut pas imaginer qu'il y a une voie, une prophétie, qu'il y a des mitzvot que l'on ne comprend pas et que l'on doit accomplir. Et donc les Ivanim ont été d'Afka, chercher toutes les fioles pour aller les rendre impures. Tu dis que c'est pur, voilà, c'est impur. Tu dis que c'est pur, c'est impur. Tu dis que la menorah, il faut l'allumer en état d'impureté, on va tout faire pour que tu ne puisses pas réaliser. C'est ça ce que dit le Rambam, ou Batlou Datam. C'est-à-dire qu'ils avaient une idée, ils étaient shitati, c'est-à-dire d'aller et chercher là où on pouvait répandre un peu plus la tarbout yavan, l'idée d'yavan, de dire que tu ne peux agir qu'en fonction de ce que tu comprends. Il n'y a pas de choses qui sont au-delà de ce que l'homme peut entendre. Aussi étonnant que ce soit, et c'est rapporté dans les Mefarshim, Yavan a deux belles gématriotes. Une gématria de Yavan, c'est Galgal. Galgal, qu'est-ce que ça veut dire Galgal? Un cercle. Et une autre gématria de Yavan, écoutez bien, c'est Haya Hove Veiye. Haya Hove Veiye. Il était, il est, il sera. En vérité, c'est pas que Yavan pense que Hachem est Haya Hove Veiye. Yavan, au contraire, a exclu le Haya Hove Veiye d'Akadosh Baruch Hu. Mais Yavan a dit, ce monde dans lequel nous vivons, il a toujours été là. Et il sera là tout le temps, jusqu'à jamais. Alors que nous, nous savons que ce monde-là, et c'est notre imuna, c'est là la base de la Torah, a été créé yesh me'ayin, donc quelque chose de rien, et que qui était le haya oveviyeh, c'est que Akadosh Baruch Hu. Donc Yavan vont enlever, détacher Akadosh Baruch Hu de ce monde. Et on dit, voici ce monde-là, il est tel que tu le vois. Aya, Oveveye, comme tu le vois maintenant, il était il y a 10 000 ans, il y a 1 million d'années. Et donc, ils vont renier aussi la Hashgacha Pratit d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Parce que Dieu n'a pas créé de monde, il n'y a pas de Dieu pour eux. Et donc, automatiquement, pour Yavan, tout ce qui se passe dans ce monde est un galgal qui n'a pas un sens particulier. Ça va à l'encontre de tout ce que notre Torah nous dit, comme quoi il y a une récompense, il y a une mission, il y a telle et telle intervention d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. En fait, Yavan a exclu tout ce qu'il pouvait de ce monde-là. Et ça, c'est notre guerre que nous avons avec Yavan. Cette guerre, elle est encore jusqu'à aujourd'hui. Cette guerre, c'est cette lumière que nous allons allumer le soir de Hanouka. C'est-à-dire, on va répandre de la lumière dans le monde. Eux, ils ont amené le Rocher dans le monde. On le retrouve encore dans des psukim où le Rocher, c'est cette période de Yavan. Yavan, c'était pour eux, au contraire, ils venaient éclairer le monde. Mais en réalité, ils venaient rendre obscur le monde. Parce que Yavan a exclu Akadosh Baruch Hu de ce monde. Pour Yavan, Akadosh Baruch Hu ne parle plus dans ce monde. Bien sûr, il n'a jamais parlé, mais pour eux. Mais une fois que Yavan. Mais donc, le dibour d'Akadosh Baruch Hu ne peut plus être. Il ne peut plus y avoir de prophétie dans ce monde. Il ne peut plus rien y avoir d'autre que juste un monde très chitsoni extérieur. Et donc, Yavan va toujours rechercher le côté extérieur de la chose, la beauté de la chose. Va développer l'homme, le commun, développer toutes les tabouillottes Yavan, mais sans essayer de changer l'homme, d'améliorer l'homme. Donc exactement le contraire de ce que toute la Torah nous enseigne, qui est au contraire le but, pas de servir l'homme à arriver à tout ses envies et ce qu'il veut, mais au contraire de pouvoir maintenir l'homme dans le cadre de la Torah. Et donc cette obscurité que Yavan ont apportée dans ce monde, c'est par ces veilleuses de Hanouka, ces lumières que nous allons éclairer. Et Akadosh Baruch Hu a fait un nes à Hanouka, qui était aussi un nes qui était caché, parce qu'on n'est plus dans la période où il y a des nissim, c'est-à-dire des miracles qui ont été dévoilés, qui sont comme ça, qui apparaissent ouvertement. C'est pour cela qu'à Hanouka, nous n'avons pas non plus de Megillah de Hanouka. Il n'y a pas de Megillah de Hanouka parce qu'il n'y a plus de Nevoah, il n'y a plus de prophétie. C'est exactement cette période-là où la prophétie s'est arrêtée. Et on rentre donc dans un autre système qui est cette Torah Shebealpé, cette Torah donc orale que nous avons, à travers, comme on avait vu au début du Seder Olam, Atoznech Haushma, là on doit être attentif, on doit approfondir, on doit se casser la tête pour pouvoir ressortir de la Torah ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Et comme disait le Hafetz Chaim, et je termine avec cette phrase-là, Fesraim disait, lorsque le matin, on va dire « Shelo Asanigoy », c'est pas qu'on doit prier « Merci à Akadosh Baruch Hu de ne pas m'avoir fait naître non-juif », mais c'est de dire de ne pas faire vivre comme un non-juif, c'est-à-dire d'avoir la vision d'un juif dans ce monde-ci, c'est-à-dire de comprendre à travers ce monde ce qui est derrière ce monde, Akadosh Baruch Hu, et même si on n'a pas donc cette Darga, cette madriga, ce degré-là de prophétie, au moins comprendre que tout le monde, tout ce que nous avons, toutes les choses de ce monde-là nous parlent, ont un message qui est le message d'Akadosh Baruch Hu, qui est, se cache derrière ce monde. Et cette guerre de Yavan, qui est portée, donc, comme on l'a vu, par Edom, elle se terminera jusqu'à la venue du Mashiach, où là elle se terminera, où là il y aura cette obscurité qui disparaîtra. Et là arrivera le Oro Shel Olam, cette fameuse lumière qui nous éclairera et qui nous montrera à Kadosh Baruch Hu derrière le monde dans lequel nous vivons. Amen.